la rivière leur tiendrait lieu de champ de bataille. Septon Sefton vint en se dandinant prononcer des prières, où il adjura le Dieu Père de daigner abaisser ses regards sur les deux hommes en présence et de les juger en toute équité. Puis il supplia le Dieu guerrier de prêter sa force à celui d'entre eux dont la cause était juste et véridique, avant de conjurer la merci de la déesse mère en faveur du menteur et de consentir à ce que lui soient pardonnés ses péchés. Après qu'il en eut terminé dans les formes requises, il se tourna vers sœur Eustace Osgris une dernière fois. « Sœur, dit-il, je vous en supplie encore un coup, veuillez retirer votre accusation. »«
Je n'en ferai rien, »
répliqua le vieillard dont la moustache tremblotait. Le gros Septon s'adressa pour lors à Lady Rohan.
« Belle sœur, si vous avez commis ce forfait, confessez votre culpabilité et offrez à l'honorable sœur Eustace quelques réparations pour la perte de son bois. Sans cela, le sang devra couler.
Mon champion va établir la preuve de mon innocence sous les yeux des dieux et des hommes.
Il existe d'autres recours qu'un duel judiciaire,
repartit le Septon, immergé dans l'eau jusqu'à la ceinture.
Rendons-nous à Bois Doré, je vous en implore tous deux, et soumettons votre différend au jugement de Lord Rowan.
Jamais!
Riposta sœur Eustace. La veuve rouge secoua la tête elle-même en signe de dénégation. Les traits empreints d'une fureur noire, sœur Lucas Millepain dévisagea Lady Rohan.
Une fois terminée cette pantalonnade, il vous faudra bien m'épouser! Ainsi que Monseigneur votre père en avait exprimé le désir.
« Messire, mon père ne vous a jamais aussi bien connu que moi, » répliqua-t-elle. Dunk mit un genou en terre auprès de l'œuf, dans la main duquel il replaça le sceau. Quatre dragons tricéphales, deux par deux, les armoiries de Maécar, prince de l'Estival. « Remets-le dans la botte, » dit-il, « mais si jamais je succombe, va trouver le plus proche des amis de ton père. » Et fais en sorte qu'il te ramène à l'Estival. Garde-toi d'essayer de traverser l'ensemble du bief par tes seuls moyens. Veille à t'en souvenir, ou mon fantôme viendra te talocher l'oreille.
« Oui, sœur, » fit l'œuf, « mais je préférerais que vous ne mouriez pas. »
Il fait beaucoup trop chaud pour mourir. Dunk coiffa son home, et l'œuf l'aida à l'arrimer fermement à son gorgerin. Sœur Eustace avait eu beau déchirer son manteau pour contribuer à réprimer l'hémorragie de la plaie, le sang lui empoissait la figure. Il se releva pour aller enfourcher Tonnerre. La fumée s'était presque entièrement dissipée, mais le ciel demeurait extrêmement sombre. « Des nuages, songea-t-il, des nuages noirs, les premiers depuis une éternité. Peut-être est-ce là un présage, mais... un présage en faveur de qui? De lui ou de moi? Dunk n'était pas calé en matière de présage. Sur la rive opposée, sœur Lucas était également juchée sur sa monture. Celle-ci était un coursier alezan, une bête splendide, vive et vigoureuse, mais moins haute que le destrier. Les points qu'elle lui rendait pour la taille étaient cependant compensés par son armement. Elle était équipée d'un chanfrein, d'une cervicale et d'un caparaçon en chaîne de mailles légères. Quant au double flandrin, il était revêtu de plates émaillées de noir et de mailles annelées argent. Une araignée d'onyx s'agrippait d'un air malfaisant sur son home, mais ses armoiries personnelles figuraient sur son bouclier. Une barre de bâtardise échiquetée de noir et blanc sur champ gris clair. Sous les yeux de Dunk, sœur Lucas le tendit à son écuyer. Il n'a donc pas l'intention de l'utiliser. En voyant un autre écuyer lui remettre une hache d'arme, il comprit pourquoi. Elle était d'une longueur mortelle, avait un manche cerclé de métal, une tête massive, munie d'une effroyable pointe à l'arrière. Mais c'était à deux mains qu'elle se maniait. Le double Flandrin allait devoir ne compter que sur son armure pour le protéger. À moi de l'amener à se repentir de ce choix. Lui-même avait son bouclier au bras gauche, le fameux bouclier sur lequel Tancel avait peint l'orme et l'étoile filante. Une comptine puérile résonna dans sa tête. « Chaîne et fer, gardez-moi fort, ou bien suis mort, bon pour l'enfer. » Il fit glisser sa longue épée hors du fourreau. Le seul fait d'en éprouver la pesanteur lui procura un singulier bien-être. Il pressa des talons les flancs de son grand destrier pour le faire descendre dans la rivière. De l'autre côté, Sir Lucas en fit autant. Dunk biaisa vivement vers la droite, de manière à ne présenter au double Flandrin que son flanc gauche, protégé par le bouclier. C'était là une chose que Sir Lucas n'était pas disposé à lui concéder volontiers. Il fit promptement volter son coursier, et tous deux en vinrent aux prises dans un grand fracas d'acier gris et d'éclaboussures vertes. Sir Lucas abattit sa hache d'armes, ce qui força Dunk à pivoter sur sa selle pour faire encaisser le coup par son bouclier. La violence de l'assaut lui rabattit le bras en le faisant grincer des dents. Son épée vola ripostée par une taillade latérale qui atteignit l'autre au-dessous de son bras dressé. L'acier sonna contre l'acier de façon stridente, mais ce fut tout. À coup d'éperon, le double Flandrin fit décrire un cercle à son coursier pour essayer de se porter vers le flanc découvert de Dunk en le tournant. Mais Tonnerre vira de bord pour s'avancer à sa rencontre, en tâchant de mordre son congénère. Sir Lucas assénait sans discontinuer des coups formidables, dressé sur ses étriers pour peser de toute sa force et de tout son poids derrière la hache. Dunk levait son bouclier pour parer chaque attaque au fur et à mesure. À demi pelotonné derrière son bois de chêne, il taillait cependant aux bras, aux jambes et aux côtes. Mais la plate de Milopin dérivait tous les coups. Ils tournèrent ainsi, tournèrent l'un autour de l'autre, l'eau leur clapotant furieusement aux jambes. Le double Flandrin multipliait les attaques. Dunk se maintenait toujours sur la défensive, à l'affût du moindre point faible, qu'il découvrit finalement. Chaque fois que Sir Lucas brandissait sa hache pour l'abattre une fois de plus, une faille se discernait au creux de son aisselle. Il s'y trouvait bien de la maille et du cuir, sans compter le matelassage au-dessous, mais pas l'ombre de plate d'acier. Tout en maintenant brandi son bouclier, Dunk s'attacha dès lors à guetter la seconde propice à l'attaque. « Bientôt, bientôt !» Après s'être abattu dans un boucan d'enfer, la hache se dégagea, reprit l'air. « Là, maintenant !» Dunk enfonça ses éperons dans le ventre de Tonnerre pour l'obliger à se rapprocher, puis d'une brusque détente fit jaillir la pointe de sa longue épée droit sur la faille. Mais la faille s'évanouit aussi vite qu'elle s'était montrée. La pointe de l'épée n'égratigna qu'une rondelle et Dunk, en surextension, fut à deux doigts de perdre son assiette. La hache redescendit et, dans un fracas épouvantable, prit en biais le cerclage de fer du bouclier de Dunk, grinça contre la paroi latérale de son home et finit par aboutir obliquement le long de l'encolure de Tonnerre. Avec un hennissement suraigu, le destrier se cabra sur ses deux jarrets, roulant un œil blanc de douleur, tandis que l'atmosphère se chargeait de l'âpre senteur cuivrée du sang. Il battit l'air de ses sabots ferrés juste au moment où le double Flandrin repartait à la charge. L'un d'entre eux prit Sir Lucas en pleine figure, l'autre sur l'épaule. Après quoi, le lourd cheval de guerre vint s'écraser par-dessus le coursier. Tout se passa dès lors en un clin d'œil. Les deux chevaux s'effondrèrent, enchevêtrés, ruant et se mordant l'un l'autre, baratant l'eau et la boue du fond. Dunk tenta de se jeter à bas de sa selle, mais l'un de ses pieds s'embarrassa dans un étrier. Il tomba face en avant tout en aspirant désespérément une goulée d'air, avant que la rivière ne se rue dans son home par la fente de la visière. Son pied était toujours emprisonné, et il ressentit une secousse atroce quand les soubresauts désordonnés de tonnerre manquèrent lui déboîter la jambe. Et c'est encore en un éclair qu'il se retrouva libre, libre de tournoyer, de couler à pic. Pendant un moment, il se démena vainement dans les flots. Le monde était bleu et vert et brun. Le poids de son armure l'entraîna vers le fond, jusqu'à ce que son épaule vienne heurter le lit de la rivière.
« Si c'est là le bas, c'est dans l'autre sens qu'est le haut. »
Ses mains gantées d'acier farfouillèrent parmi les pierres et le sable. Et il finit, qui sait comment, par rassembler ses jambes sous lui et par se relever. Il était titubant, dégoûtant de vase, de l'eau ruisselait par les vantaux de son aume cabossé, mais il était bel et bien debout. Il se gorgea les poumons d'air. Il avait toujours passablement amoché son bouclier accroché au bras gauche, mais son fourreau était vide et son épée avait disparu. Il y avait dans son aume aussi bien du sang que de l'eau. Lorsqu'il s'efforça de déplacer sa masse, un élancement douloureux fusa de sa cheville jusqu'en haut de sa jambe. À force de se débattre, les deux chevaux avaient fini par se retrouver sur leurs sabots, s'aperçut-il. Il tourna la tête en louchant d'un seul œil au travers d'un voile sanglant pour essayer de repérer son adversaire. « Bernic !» songea-t-il, « il a dû se noyer, ou bien Tonnerre lui a écrabouillé le crâne. » Sœur Lucas surgit brusquement de l'eau, juste devant lui, l'épée au poing. Il lui décocha un coup formidable, à la hauteur du col, et Dunk ne dut de garder la tête sur les épaules qu'à l'épaisseur de son gorgerin. Il ne possédait plus de rapière pour répliquer, rien d'autre que son bouclier. Il céda du terrain, harcelé par le double flandrin qui vociférait en taillant à tout va. Le bras levé de Dunk écopa d'un coup, qui l'engourdit au-dessus du coude. Une blessure à la hanche lui arracha un grognement de douleur. Comme il continuait à reculer, une pierre se déroba sous ses pieds, et il s'effondra sur un genou, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine. Il brandit son bouclier pour se couvrir, mais cette fois sœur Lucas y asséna un coup d'une telle violence que le chêne massif se fendit en plein milieu, et qu'il en repoussa les vestiges jusque dans la figure de Dunk. Les oreilles toutes bourdonnantes et la bouche pleine de sang, celui-ci n'en entendit pas moins quelque part au loin l'œuf piaulé.
« Sus à lui, sœur, sus, sus, il est juste où il faut !»
Dunk plongea en avant. Sœur Lucas avait dégagé son épée pour frapper à nouveau. Dunk lui rentra dedans à la hauteur de la taille et lui fit perdre l'équilibre. Les flots les engloutirent à nouveau tous deux, mais cette fois Dunk était prêt. Enlaçant d'un bras inexorable le double flandrin, il l'attira de force vers le fond. Des flots de bulles avaient beau s'échapper de derrière sa visière martelée, tordue, l'autre persistait tout de même à lutter. Il dénicha une pierre dans le lit de la rivière et se mit à en marteler Dunk à la tête et aux mains. Dunk tâtonna du côté de son ceinturon. « Aurais-je aussi perdu ma dague ? » songea-t-il. « Non, elle était bien là. » Son poing se referma sur la poignée de l'arme, qu'il dégaina au plus vite, avant de l'enfoncer lentement au sein des remous, puis au travers des mailles de fer et des cuirs bouillis, sous le bras du double flandrin, vrillant la lame au fur et à mesure qu'il la poussait plus avant. Sœur Lucas sursauta en se tortillant, puis ses forces l'abandonnèrent. Dunk s'écarta d'une poussée pour remonter à la surface. Il avait la poitrine en feu. Un poisson lui fila sous le nez, un poisson blanc et mince, tout en longueur.
« C'est quoi ?» se demanda-t-il. « C'est quoi ? C'est quoi ?»
Il se réveilla dans le mauvais château. Quand ses yeux s'ouvrirent, il ne sut pas où il se trouvait. Il régnait là une fraîcheur exquise. Le goût du sang lui gâtait la bouche et il avait un linge en travers des yeux, un linge pesant qui embaumait une variété d'onguents. Il lui sembla reconnaître l'odeur, un parfum de clous de girofle. Dunk leva une main tâtonnante vers sa figure et en retira le linge. Au-dessus de lui, la flamme d'une torche se jouait des ombres d'un plafond très haut. Des corbeaux qui arpentaient les poutres de celui-ci, l'épiaient de leurs petits yeux noirs, en lui adressant des « croix, croix ». Au moins ne suis-je pas aveugle. Il occupait la tour d'un mestre. Sur les murs s'alignaient des rayonnages, encombrés d'herbes et de potions, contenus dans des pots de terre cuite et dans des fioles de verre. Une longue table à tréteaux toute proche était surchargée de parchemins, de livres et d'instruments bizarres en bronze, le tout éclaboussé par les déjections des oiseaux logés dans la charpente. Il entendait nettement ces derniers se marmonner des choses. Il essaya de se dresser sur son séant, ce qui se révéla être une belle bévue. La tête se mit à lui tourner et sa jambe gauche hurlait au martyr pour peu qu'il lui imposât le poids le plus infime. Sa cheville était enveloppée de bandages en lin, s'aperçut-il, et des bandages similaires lui entouraient également le torse et les épaules.
« Ne vous agitez pas !»
Un visage apparut qui se pencha vers lui, un visage jeune, aux traits tirés, dont les yeux marrons sombres flanquaient un nez crochu. Ce visage-là n'était pas un inconnu pour Dunk. L'homme auquel il appartenait était entièrement vêtu de gris, et un collier en forme de chaîne ballottait autour de son cou. Une chaîne de mestre, aux maillons forgés en toutes sortes de métaux. Dunk lui attrapa le poignet.
« Où ?»« À Froide Douve, » répondit le mestre. « Comme vous étiez blessé trop grièvement pour regagner pied ferme, Lady Rohan nous a ordonné de vous transporter ici. Buvez-moi ceci. »
Il éleva une coupe de quelque chose jusqu'aux lèvres de Dunk. La potion avait une saveur aussi âpre que du vinaigre, mais qui avait en tout cas le mérite d'évacuer celle du sang. Dunk se contraignit à l'absorber jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, il ploya, déploya les doigts de sa main d'épée, puis fit pareil avec ceux de l'autre. « Au moins, mes mains fonctionnent-elles encore, ainsi que mes bras ?»«
Je me suis amoché, quoi ?»« Quoi pas, plutôt ?»
Le maître émit un reniflement.
« Une cheville brisée, un genou foulé, une fracture de la clavicule, des quantités d'ecchymoses.
La partie supérieure de votre poitrine ne lésine guère sur le vert et le jaune, et votre bras droit est d'un noir violacé. Je vous croyais le crâne également fêlé, mais il se révèle que non. Il y a aussi cette plaie au visage, sœur. Elle vous laissera une cicatrice, j'en ai bien peur. »
« Oh, et puis vous étiez noyé quand on vous a finalement retiré de l'eau. »«
Noyé ?» s'étonna Dunk.
« Je ne m'étais jamais douté qu'un seul homme puisse ingurgiter autant d'eau. Dût-il être aussi gigantesque que vous, sœur ? Tenez-vous pour chanceux que je sois ferné. Les prêtres du dieu noyé savent comment s'y prendre pour noyer un homme et pour le faire revenir à lui. » Et je me suis fait une étude de leurs croyances et de leurs pratiques.
J'ai été noyé. Dunk fit une nouvelle tentative pour s'asseoir, mais il n'en eut pas la force.
Je me suis noyé dans de l'eau qui ne m'arrivait même pas jusqu'au cou.
Il se mit à rire avant de pousser un gémissement de douleur.
Sœur Lucas ? Mort ? Vous en doutiez ?
Non. Dunk doutait de bien des choses, mais pas de celle-là. Il se rappela de quelle manière toute vigueur s'était retirée des membres du double Flandrin d'un seul coup.
« Œuf ! » hoqueta-t-il. « Œuf, je veux. La faim est un bon symptôme, » riposta le maître. « Mais c'est de sommeil que vous avez besoin pour l'instant, pas de nourriture. »
Dunk secoua la tête et s'en repentit sur le champ.
« L'œuf, c'est mon écuyer. »«
Vraiment ?
Un gamin courageux et plus costaud qu'il n'en a l'air. Et c'est lui qui vous a retiré de la rivière. »«
Il nous a aussi aidés à vous désarmer, et il a tenu à monter dans la charrette à bord de laquelle nous vous avons amené ici. Il a refusé de dormir lui-même et s'est installé à votre chevet, votre épée en travers de ses genoux, au cas où quelqu'un tenterait de vous faire du mal. Même moi, ses soupçons ne m'ont pas épargné, et il a exigé que je goûte la moindre des choses que je prétendais vous faire avaler. Un enfant singulier, mais d'un dévouement, où est-il ? Sœur Eustace l'a prié de l'assister pour le festin des noces. Il n'y avait personne d'autre pour se faire de son côté. Il aurait été discourtois au petit de se récuser. Le festin des noces. Dunk ne comprenait pas. Vous ne sauriez être au courant, bien sûr. Froide-Douve et Pied-Ferme se sont réconciliés après votre combat. Lady Rohan a prié le vieux sœur Eustace de lui accorder la permission de traverser ses terres pour aller se recueillir sur la tombe d'Adam, et il a exaucé son vœu. Elle s'est agenouillée devant les buissons de mur et s'est mise à pleurer. Et il en a été si bouleversé qu'il est allé la réconforter. Ils ont passé la nuit entière à parler du jeune Adam et du noble père de Madame. Lord Wyman et Sir Eustace avaient été amis intimes jusqu'à la rébellion fenoire. Leurs seigneuries ont été mariées ce matin par notre cher Septon Sefton. Eustace Osgry est désormais le maître de Froide-Douve, et son lion échiqueté flotte à côté de l'araignée tissier sur chaque tour et chaque muraille. Le monde de Dunk se mit à tourner lentement tout autour de lui. Cette potion, il m'a poussé à me rendormir. Il ferma les yeux et laissa toute la douleur s'écouler hors de lui. Il entendait les corbeaux croasser et se piailler des tas de choses. Il entendait sa respiration personnelle et quelque chose d'autre encore. Un bruit plus doux, plus régulier, plus dru, qui avait un je ne sais quoi d'apaisant. Qu'est-ce que c'est ? Murmura-t-il d'une voix endormie. Ce bruit-là. Ça ? Le maître prêta l'oreille. Oh, ce n'est que la pluie.